France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Hier, le document original du mandat d'arrêt contre Nelson Mandela, daté de 1961, a été vendu 130 000 dollars. Il est tout jauni, il est tout abîmé et ne quittera pas les archives du musée de Johannesburg où il est depuis 2006. Ce qui s'est vendu, c'est le NFT de ce document, donc une version numérique. L'acheteur a reçu un jeton qu'on pourrait assimiler à une sorte de certificat d'authenticité. Il y a peu, le fils de John Lennon a vendu des objets appartenant à son père, mais pas les objets eux-mêmes, les guitares n'ont pas bougé, il a vendu les NFT, des objets, donc des jetons numériques. L'Ukraine vient de créer un musée en ligne pour relater sa guerre avec la Russie par le biais de NFT. Les Pussy Riot, par exemple, le groupe dissident russe, a créé un drapeau ukrainien numérique vendu, tenez-vous bien, plus de 6 millions de dollars. Mais c'est quoi ces NFT dont le marché représentait en 2020 70 millions de dollars dans le monde représente aujourd'hui 13 milliards de dollars, le double peut-être pour 2022. NFT, ça veut dire non-fungible tokens, des jetons non fongibles, c'est-à-dire des objets numériques dont l'authenticité et la traçabilité sont certifiés par la technologie des blockchains. Vous avez compris, vous avez de la chance. Moi, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, mais l'idée, exactement comme vous pourriez acheter un tableau de Picasso qui vaut évidemment beaucoup plus cher que sa copie, et bien là, vous achetez une œuvre numérique, comme ce drapeau ukrainien, par exemple des Pussy Riot, dont l'original a un prix, même si cet objet numérique, vous pouvez le voir en copie ailleurs. Est-ce que vous suivez ? En revanche, quand on a la NFT d'un objet qu'on ne possède pas, comme la guitare de Lennon, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Quand les traders font fortune avec des images de singes, de canards, de chats, de chauves-souris virtuelles, parce que ça existe, qu'est-ce que ça nous raconte ? Quand les musées veulent se lancer et créer par exemple des NFT d'un Turner, comme c'est le cas du British Museum, comment ça marche ? Est-ce que c'est une vaste spéculation numérique tout simplement ? Est-ce que c'est une bulle ? Ou est-ce que c'est l'investissement de demain ? Essayons de débrouiller tout ça, c'est le téléphone sonne ce soir. Accrochez-vous et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Le premier, Alfred, c'est vous. On vous écoute et soyez le bienvenu.
Oui, bonsoir France Inter. Alors, Alfred Duller, je suis ambassadeur France de Radix DLT. En protocole parmi des milliers d'autres dans la crypto.
D'accord,
et
la crypto-monnaie.
Dernièrement, ouais, exactement.
Donc vous savez de quoi vous parlez, Alfred, c'est déjà une bonne nouvelle.
Un petit peu, je suis cette technologie depuis à peu près 2014 et je trouve ça vraiment intéressant. Et dernièrement, en effet, sur ce protocole qui s'est lancé fin d'année dernière, on a eu un véritable zoo qui est apparu avec des pingouins NFT, des baleines NFT, des singes NFT, et même un chien à trois têtes qui s'appelle Dodge Cube en NFT. Sauf que j'ai vu plein de gens se ruer là-dessus. La véritable question que je me pose, c'est en effet si c'est pas une bulle, parce que c'est un domaine d'application et pas un domaine d'invention. Et il est déployé sur un domaine d'invention qui, lui, n'est peut-être pas encore tout à fait, je dirais, à jour. Mm-hmm. Un peu comme si on lançait aujourd'hui une application sur un Nokia 3310 et que demain sortait le smartphone. Et finalement, ce qu'on a acheté et investi sur le Nokia 3310 se retrouvera tout simplement obsolète d'ici 2-3 ans. Mm-hmm. Donc ma question, c'est où est-ce qu'on en effet au niveau de cette courbe technologique et jusqu'où ça peut aller, ce genre de bulle, et les dégâts que ça peut causer derrière.
Alors on verra notamment si on appelle ça une bulle ou pas. Alfred, merci pour cette mise en bouche, si je puis dire, pour cette introduction, pour essayer de comprendre tous ensemble et en discuter jusqu'à 20h. Olivier Klepatsky est avec nous, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Vous êtes réalisateur, vous êtes producteur en ce moment même d'un documentaire sur les NFT, donc vous avez rencontré beaucoup de gens qui en possèdent, qui en fabriquent, qui en cherchent et qui spéculent, vous nous raconterez tout ça. Julien Baldacchino est là également, bonsoir Julien.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste web ici à France Inter. Et Dominique Savo-Duvauroux. Bonsoir, monsieur Savo-Duvauroux.
Sago-Duvauroux.
Sago, excusez-moi.
C'est pas grave.
Ben voilà, on me l'a écrit avec un V, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Économiste spécialiste des politiques culturelles, monsieur Sago-Duvauroux, vous êtes aussi prof d'économie à l'université d'Angers. Je vais vous poser, c'est peut-être avec vous que je vais commencer d'ailleurs le prof d'économie là-dessus. D'abord, est-ce qu'on dit que c'est une bulle, en fait ? Donc quelque chose qui est vraiment purement virtuel et qui va finir par exploser à la figure de ceux qui le manient en ce moment ? Ou est-ce que c'est une vraie révolution à la fois dans le marché numérique et peut-être aussi le marché de l'art, par exemple ?
Alors peut-être commencer par définir ce que c'est qu'une bulle spéculative. En fait, une bulle spéculative, c'est un phénomène où la valeur d'un objet se détache de ce qu'on appelle souvent la valeur fondamentale. Mmh. Alors cette valeur fondamentale, ça peut être le coût de fabrication, ça peut être dans le domaine artistique la reconnaissance artistique de l'artiste. Donc on va dire qu'il y a une bulle spéculative lorsque finalement le prix d'un objet se détache complètement d'éléments d'appréciation plus fondamentaux de la valeur. De ce point de vue-là, on peut dire que le prix aujourd'hui des NFT est un prix qui est assez spéculatif. Hein. Mmh. On a des courbes qui s'apparentent à la spéculation sur les tulipes au XVIIe siècle en Hollande, où un oignon de tulipe avait pris en quelques mois plusieurs dizaines de milliers de dollars actuels. Mmh. Donc, de ce point de vue-là, je pense que effectivement, on est dans une bulle où finalement la valeur des NFT, elle repose pas tant sur une reconnaissance de sa valeur artistique ou autre, mais sur le fait qu'on pense que quelqu'un peut potentiellement la racheter plus cher ailleurs.
Donc ça repose sur la volatilité en fait, mais pas sur la valeur en fait, c'est ça l'idée.
Voilà, c'est ça. Hein. Il y a bulle spéculative où lorsque finalement ce qui compte, c'est plutôt de connaître la psychologie du marché que de connaître la valeur réelle l'objet qu'on achète. Mmh. Et si on connaît la psychologie du marché, ça veut dire qu'on sent si l'objet qu'on achète, il va monter ou descendre. Alors on trouve ça à la bourse, mais on trouve ça aussi sur le marché de l'art et en particulier sur les NFT.
Donc, mais pour l'instant, au moment où on se parle, est-ce qu'on se dit qu'il est en train de monter une bulle? Parce que en effet, les photos numériques de chiens, de chauves-souris, etc., dont parlait Alfred, qui ont des prix complètement déments, alors que c'est rien, enfin je veux dire, c'est vraiment rien. Mais à côté de ça, on a des NFT, je le disais tout à l'heure, de tableaux du British Museum, donc on parle de Turner. Mmh. À côté de ça, on a des œuvres virtuelles qui sont elles-mêmes créées. Donc est-ce que ça veut dire aussi, Monsieur Sagot-Duvauroux, qu'on est pour l'instant dans un monde et dans un marché où il y a tout et n'importe quoi aussi, en fait. Et c'est peut-être ça qui rend le fait de fixer une valeur extrêmement compliqué.
Oui, ça revient aussi un peu à ce que disait Alfred tout à l'heure, c'est que finalement on est sur un marché où les technologies ne sont pas stabilisées et où finalement on peut attribuer un certificat d'authenticité unique à n'importe quel objet. Alors ça, c'est a priori, hein, quand Marcel Duchamp prend un urinoir, le met dans un musée et dit c'est de l'art, il fait un petit peu la même chose. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ce phénomène des NFT, c'est d'abord la possibilité de certifier l'authenticité d'un objet numérique infiniment reproductible. Mmh. Et à partir du moment où on peut faire ça, on peut créer des marchés de collection, et des marchés de collection, on peut en créer sur n'importe quelle chose. Donc c'est pas étonnant que les NFT aient investi en fait tous les objets et les services actuels jusqu'à des moments de temps, hein, puisque on peut acheter des moments d'un match de basket ou d'un match de football. On pourrait par exemple acheter le moment où Kylian Mbappé a marqué son but à la 90e minute du match Paris Saint-Germain Real de Madrid.
Et c'est ça qui est difficile à comprendre, Olivier Klepacki. Il a raison de donner l'exemple du basket, parce que ça a commencé comme ça d'ailleurs avec le sport. En tout cas, c'était des paniers de la NBA tout simplement, notamment, enfin qui étaient vendus. Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est donc ok, il y a ce but de Mbappé qui est capté à un moment, et c'est cette captation là qu'on décide de vendre comme une NFT. Mais moi, si je veux le voir, ce but de Mbappé, il suffit que j'aille sur YouTube et je vois le même. Donc, en quoi le fait d'en avoir transformé un en NFT et de lui donner une valeur, d'où elle sort la valeur de ce truc que je peux voir sur YouTube si j'ai envie de le voir?
Ben c'est ce qui est intéressant de se dire, c'est que en fait, ça peut être aussi le joueur de foot ou le club lui-même qui va donner de la valeur à ce NFT. Et en fait, vous n'allez pas juste. Alors déjà, faut reprendre la base. Tous les NFT s'appuient sur le mécanisme de la collection, qui existe donc, depuis la nuit des temps. On a tous collectionné des cartes Panini.
Exact, c'est ce que j'allais vous dire. En fait, pour donc, le sport, c'est un album Panini virtuel, en fait, dans l'idée.
On peut dire ça, tout à fait. Et pourquoi, en fait, il y a une vraie valeur aux NFT, mais ça, c'est normal que les gens ne le savent pas, puisque bah, ils ont pas toutes les infos. C'est que justement, si le club s'associe à ce moment où le joueur, et bah, clairement, avec ce NFT, vous aurez peut-être accès je dis n'importe quoi, mais à une rencontre avec le joueur ou une collection spéciale du joueur. En fait, ce qu'il faut voir, c'est pas le NFT en lui-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour et toute la valeur qui va se dégager de ce NFT.
Mais Julien Maldacchino, comment il prend de la valeur, mon Mbappé en train de tirer son but, par exemple? Pourquoi est-ce que je peux me faire de l'argent là-dessus? Comment je me fais de l'argent là-dessus? Puisqu'il est unique, je le revends, mais
d'où c'est là, en fait, que qu'on rentre sur une vraie logique de marché. D'abord parce que le NFT... Lui, il est unique, mais on peut décider qu'il y a une série, c'est-à-dire que le club, par exemple, peut décider qu'il va mettre en vente 1000 NFT associés à ce moment. Et donc, dans ce cas-là, ce sera moins rare. Si c'est un moment unique, il devient plus rare, et donc il devient plus cher. Et on va très rapidement rentrer dans une logique d'achat et de revente. C'est là, à mon avis, qu'on rentre dans le côté spéculatif, où on achète et où on revend des choses sans se soucier de ce qui est associé à cette chose-là, et simplement pour faire augmenter le prix, ainsi de suite.
Après, comme dans l'art aussi, hein. Je veux dire, l'art, c'est le même principe. Vous achetez un tableau, la cote de l'artiste monte, la valeur du tableau monte. Le NFT, c'est pareil.
Mais alors, on va avoir une galeriste à l'instant au téléphone. Juste avant une question, je comprends très bien comment une œuvre numérique peut atteindre une certaine valeur si elle est créée par un artiste qui crée une œuvre numérique. Donc, on donne de la valeur à cette œuvre-là. C'est d'ailleurs comme ça que les premières ventes aux enchères ont eu lieu et qu'on a vu que ça prenait une valeur absolument démentielle. C'était Beeple, l'artiste Beeple, le premier qui a vendu son mise à prix 100 dollars dans mes souvenirs. Il l'a vendu finalement plus de 69 millions, un truc de fou. Je comprends très bien une œuvre originelle, mais quand on nous dit, par exemple, qu'on peut avoir un NFT d'un Turner au British Museum, qu'est-ce que j'ai, en fait, quand j'ai un morceau du Turner du British Museum? Qu'est-ce que j'ai, là?
Bah, tout dépend du mécanisme qui a été mis en place par le musée. Oui, ça peut être soit un morceau effectivement de ce tableau, soit la possibilité, comme je vous dis, d'aller le voir à un moment défini lors d'une ou créer un événement autour du tableau, c'est-à-dire qu'on pourrait éventuellement vous inviter au British Museum pour vous retrouver devant le tableau avec les 100 détenteurs du NFT et passer un moment privilégié sans tous les touristes autour. Voilà, et vous avez le British Museum pour vous, le tableau pour vous, l'espace d'un instant. Voilà, mais en fait, il y a plein de, comment dire, de récompenses qu'on peut associer à un NFT, et c'est ça sa vraie force, en fait. C'est ça sa vraie valeur, et c'est ça qu'il faut expliquer aux gens. Voilà, c'est ça qui est vraiment important.
Et qui est toujours très virtuel, effectivement, mais je vois bien ce que vous dites.
Et alors, très important, oui, parce que c'est pas que virtuel. Aujourd'hui, souvent, c'est pas à chaque fois sur chaque vente, mais quand vous achetez le NFT d'un artiste, digital par exemple, si cet artiste fait aussi à créer l'œuvre en le peignant, par exemple, je suis allé à la rencontre à Liverpool de Faye Washers, qui est un jeune artiste de 18 ans, qui est devenu justement fameuse grâce au NFT. Bon, à la base, il travaille sur son iPad, il crée, il dessine, mais derrière, il a fait ce tableau en vrai.
Absolument.
C'est une toile avec des nuances de gouache, de couleurs et tout. C'est magnifique. Je l'ai vu le tableau, c'est superbe. Et en fait, quand le collectionneur qui s'appelle Mondoir a acheté le NFT, il a reçu 6 mois plus tard le tableau. Et donc Victor, donc Faye Washers, est venu un peu plus tard lui donner en échange de ce premier achat de NFT, d'autres œuvres originales, des extraits de sa vie, etc. Donc en fait, c'est presque le NFT, c'est presque une porte d'entrée vers quelque chose de beaucoup plus vaste qui existe aussi dans le monde réel. Et ça, c'est très important de le signaler.
Mais est-ce que ça veut dire, Julien Maldacchino, que si j'achète un NFT d'un des objets de John Lennon, par exemple, que son fils a mis en vente, quoi, un jour je vais recevoir la guitare? Parce que si je reçois la guitare, c'est quand même vachement plus intéressant.
Alors non, c'est là que c'est très particulier. Dans le cas du British Museum qui met en vente un NFT d'un Turner, c'est presque du micro-mécénat.
Oui.
Voilà, vous aidez le musée à faire vivre ce tableau.
Okay.
Dans le cas de John Lennon, du fils de John Lennon, c'est beaucoup plus particulier parce que ce qu'il a associé à son NFT, c'est des petits fichiers dans lesquels il raconte l'histoire de l'œuvre de la guitare qu'il a vendue. Mais la guitare, elle reste à lui. Et à ce moment-là, c'est là qu'on se demande vraiment à quel point on va dans la dissociation entre l'objet et un simple fichier numérique qui est associé.
Dominique Sago-Duvauroux, là-dessus, je voyais que vous vouliez réagir.
Oui, non, c'était pour dire qu'effectivement, il faut distinguer différentes situations. Vous aviez raison de dire qu'il y a d'abord les œuvres numériques qui sont très difficiles à vendre parce qu'elles sont reproductibles à l'infini. Et donc là, on crée un certificat d'authenticité qui permet à ces œuvres-là d'avoir un marché comme une œuvre fongible a un marché. Il n'y a pas de raison que ces œuvres numériques soient disqualifiées par rapport à des œuvres fongibles. tangibles des objets matériels. Mmh. Ce qui se passe dans les musées, mais vous l'avez dit, c'est effectivement plus une sorte de mécénat spéculatif, c'est-à-dire qu'on va acheter une reproduction d'un Turner, 5 000 $, puisqu'elles ont été vendues 5 000 $, là, les 20 reproductions d'un Turner. Et donc ça permet au musée d'avoir des ressources sur des œuvres qui sont la plupart du temps inaliénables, en tout cas en Europe. C'est des œuvres qui ont énormément de valeur sur le marché, mais elles peuvent pas aller sur le marché parce qu'elles sont inaliénables, elles sont pas à vendre. Et donc c'est une manière de transformer cette valeur d'une certaine façon. Et puis après ça, évidemment, il peut y avoir un second marché autour de ces NFT. Ces personnes qui ont acheté les reproductions de Turner, les NFT associés à une reproduction de Turner, ils peuvent le revendre sur un marché et leur vendre 10 000 $ ou bien 3 $. Mmh. Donc c'est un type de mécénat assez original qui a une dimension jeu, une dimension spéculative.
Mmh. Laura est galeriste. On aimerait bien avoir votre avis. Bonsoir Laura.
Oui, bonsoir.
Allez-y, racontez-nous.
Merci de prendre mon appel. Effectivement, ça sera peut-être une intervention qu'on pourrait presque qualifier de réactionnaire, mais pour moi, on oublie quelque chose de fondamental. C'est que moi, le fait de qualifier les NFT d'œuvres, déjà, ça me fait bondir parce que on oublie ce qu'est l'art à la base. L'art, c'est une émotion, c'est une expression. C'est un partage autour du sensible, et là, il en est absolument plus question. Pour moi, c'est acheter un NFT d'une reproduction d'une œuvre d'art, ça a la même valeur qu'acheter le mug à la boutique du musée. Enfin, c'est vraiment et autant alors à ce moment-là être honnête et admettre que c'est une spéculation comme une autre. Point. Mais donner à ce genre de machinerie numérique, le statut d'œuvre, ça me paraît plus qu'outrageux en fait. Voilà, et ça me questionne effectivement que les musées se lancent dans cette aventure.
Les musées, les galeries, etc. Laura, c'est en train d'envahir doucement votre monde. C'est bien le sentiment effectivement qu'on a, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se penche sur ce sujet. Mais Julien Baldacchino là-dessus, par exemple. Alors c'est vrai qu'on a l'impression en fait que il faut le prendre ce train des NFT, sinon on est en retard en fait. C'est pour ça que tous les grands musées s'y sont mis, on parlait du British Museum, mais nous en France par exemple, assez tardivement, parce que ça date d'il y a très peu de temps, un petit mois je crois, on peut faire des enchères sur les NFT désormais, ce qui n'était pas le cas auparavant en fait, donc c'est en train de prendre une place phénoménale visiblement.
C'est un train effectivement qui avance très très vite, dans lequel quand on s'y engouffre, on ne sait pas exactement vers quoi on va. Et un exemple, c'est l'une des plateformes qui vendent des NFT.
Parce que j'allais aussi vous poser la question, il y a des plateformes pour ça, il faut que j'aille sur une plateforme, évidemment, pour acheter ça.
Il y a des plateformes qui sont spécialisées dans la vente de NFT, qui, pour la plupart, faisaient déjà des crypto-monnaies avant, parce que c'est deux choses qui sont très associées.
On va y venir.
Et en fait, l'une des plateformes a dit, nous, on va arrêter de rendre aussi simple le fait de créer des NFT, parce qu'il y a des faux. Parce que des gens ont certifié avec des NFT des œuvres qu'ils n'avaient pas réalisées. Donc, c'est quelque chose qu'on peut regarder d'un œil curieux. S'y engouffrer, c'est s'engouffrer dans quelque chose où on ne sait pas vraiment où ça va aller.
Écoutez la question de Corinne qui dit « Pour moi, c'est une bulle qui s'auto-alimente et qui va éclater. Quelle est la valeur de référence ? Est-ce que c'est le cours de l'or ? Est-ce que c'est le cours du riz ?» demande Corinne. « Comment valoriser l'investissement ? Le virtuel ne pourra rien contre la matérialité. » Et c'est à nouveau vers vous, l'économiste Dominique Sagot-Dubourg, que j'ai envie de me tourner. Au fond, effectivement, c'est comme le bitcoin. En fait, on se demande quelle est la valeur de référence, donc qu'est-ce qui donne effectivement une valeur ?
Ben, ce qui donne la valeur, c'est la confiance qu'on a dans le fait qu'on va pouvoir la revendre plus cher. C'est ça le principe d'une bulle spéculative. Il y a, comme je le disais au départ, il y a une espèce de déconnexion avec une valeur de référence telle que l'auditrice évoquait tout à l'heure, ce qu'on peut appeler une valeur fondamentale. Il y a un décrochage. Il y a plus de valeur fondamentale comme l'oignon de tulipe au XVIIe siècle. Et à partir de là, ben, ça monte tant qu'il y a la psychologie du marché pense que ça va monter. Et puis, ça peut disparaître du jour au lendemain lorsque cette montée de valeur ne s'appuie pas sur une valeur fondamentale. Alors, cette valeur fondamentale, elle peut être artistique, en référence à l'histoire de l'art, par exemple. Pour le moment, c'est pas vraiment le cas. Mmh. Elle peut être liée au nombre à la notoriété de l'artiste ou de l'auteur, comme pour Beeple. Par exemple, Beeple, ouais. Il avait 2,3 millions de followers. Ouais. Donc, ça, c'est une espèce de valeur fondamentale qui peut justifier que finalement, une œuvre faite par un artiste numérique qui est suivi par 2,3 millions d'internautes présente une valeur. C'est 5 fois plus que le nombre de followers de Jeff Koons, par exemple. Donc, c'est des éléments comme ça qui peuvent expliquer cette valeur, mais bon, moi, je pense que c'est une bulle spéculative. Hein,
est-ce que, Olivier Kepatsky, pour vraiment caricaturer, j'allais dire, presque les choses, moi, par exemple, est-ce que je peux décider de faire une NFT de moi en train de dire « Soyez les bienvenus dans le téléphone sonne », j'en sais rien, et imaginer que, peu importe si ça se vend ou si ça se vend pas, imaginer que ça peut se vendre, et donc je fais ce NFT et je le mets sur une plateforme, est-ce que tout le monde peut jouer à ça ? Et on se retrouve dans une espèce de jungle complètement démente ou pas ?
Alors
c'est possible,
après, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que est-ce qu'il y aura des gens qui vont acheter ce NFT ?
Je vous remercie. Non mais évidemment, plein de gens.
Non mais en fait, c'est ça. C'est parce que en fait, ce qui est très important, c'est qu'il faut pas résumer ça vraiment. Effectivement, en fait, faut voir les choses d'un autre prisme. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, il y a eu Internet il y a plus de 30 ans, et là, en fait, on est à l'aube d'un autre courant de digitalisation de la société. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Et en fait, je suis d'accord, il y a une partie de spéculation, il y a des gens qui jouent, il y a du trading, il y a des gens qui se font de l'argent avec ça, mais il y a aussi énormément de gens qui créent de la valeur avec ces projets de NFT. C'est pas juste des gens qui jouent, il y a des gens, aujourd'hui typiquement, il y a une société qui s'appelle Honest en France, donc une société française, qui bosse avec Cdiscount, avec Decathlon, avec voilà, et qui se sert d'un NFT pour changer la manière dont on trace le colis entre l'entrepôt et votre domicile. Mmh. Et ça, typiquement, le consommateur ne le sait pas, le consommateur ne le voit pas, mais ça s'est rendu possible grâce à un NFT, et ça a complètement, avant on va pas se le cacher, les colis de plus de 10 kilos, bah, ceux qui sont intéressants, il y en avait pas mal qui disparaissaient, et avec ce, un peu, ils ont appelé ça le mécanisme de la patate chaude, c'est-à-dire que chaque acteur qui réceptionne le colis, donc via un NFT, est responsable de ce colis. Et vu que toutes les transactions de NFT sont inscrites sur la blockchain, le livreur peut pas dire « Ah non, 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 mais moi, j'ai jamais eu ce colis, voilà, etc. » Et en fait, c'est ça
donc,
qui est important.
Là, c'est un outil, en l'occurrence.
Voilà, c'est un outil. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Oui, dans l'art, effectivement, et la spéculation, oui, on va pas se le cacher. Moi, je pense la même chose. Je pense qu'on va arriver à un sommet et il va y avoir un éclatement. Mais comme Internet, il y a, souvenez-vous, à l'époque.
Mais et comme le Bitcoin, Internet, au fond, qui à un moment a fini par être plus ou moins régulé, il l'est pas complètement, mais il l'est de fait quand même partiellement aujourd'hui.
Et il est reparti. Parce que c'est aussi pareil. Parce qu'en fait, faut pas mélanger crypto, Bitcoin. Effectivement, aujourd'hui, un NFT n'existe pas sans la blockchain. Mais, à terme, moi je pense que l'aspect crypto pourrait disparaître et on pourra clairement s'acheter un NFT avec de la monnaie, sa carte bleue, ce qu'on veut, voilà, etc. Donc c'est pas obligatoirement lié. Et donc le Bitcoin, faut pas oublier que pour certains pays aujourd'hui c'est devenu une réserve de valeur. Hein. Des pays comme le Liban, certaines personnes sont très contentes d'avoir du Bitcoin parce que vu l'effondrement de leur monnaie. Donc voilà, ça devient chez nous,
c'est
non, c'est pas le cas.
Dans certains pays d'Amérique du Sud aussi.
Voilà. Donc, en fait, faut pas diaboliser tout ça. Je comprends tout à fait la remarque de la galeriste, effectivement, puisque je peux. La démarche des musées, c'est une démarche, c'est un choix. Mais aujourd'hui, il y a une vraie forme d'art digital. Il y a des artistes qui n'auraient jamais pu voir le jour sans l'émergence des NFT, qui sont très talentueux. J'étais justement à la vente aux enchères, la première vente aux enchères dont vous parliez, qui a été organisée par Fauve Paris.
Celle de Beeple?
Non, bah ça j'aurais bien aimé, mais c'est la première en France, Fauve Paris, justement la première fois qu'on pouvait vendre des NFT. Voilà, et c'est vrai qu'il y avait à peu près plus de 40 œuvres, et c'est des œuvres magnifiques, quoi.
Dominique Sagot-Duvauroux.
Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, les NFT, ça peut permettre aussi au marché de l'art de résoudre un problème qui est une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de lui, qui est le problème des faux. Hein. Ouais. Il y a certains experts qui disent qu'il y a entre 20 et 40% d'œuvres qui circulent sur le marché qui sont des faux. La certification de l'authenticité par les NFT peuvent résoudre pour les œuvres nouvelles, bien entendu, ce problème-là. Donc c'est effectivement, il y a un côté outil dans les NFT qu'il ne faut pas oublier.
Olivier Klepatsky, on retourne au standard. Allez-y.
Oui, juste une petite précision, et aussi ce qui est énorme pour justement les gens qui vendent de l'art digital, c'est que grâce au smart contract, donc il y a un contrat intelligent qui est très facile à créer au moment où vous créez votre NFT, À chaque fois que votre NFT sera revendu, l'artiste touchera une commission sur le marché secondaire, ce qui n'existe absolument pas dans le marché classique. Hein. Mmh. Un artiste, voilà, il vend son œuvre. Si, je sais pas, dans 10 ans, elle est revendue 100 000, il touche zéro. Là, il touche une commission.
Alors, voilà un collectionneur qui est avec nous. Bonsoir, Rémi.
Bonsoir.
On vous écoute, Rémi.
Bon, ça me fait plaisir d'être reçu dans votre émission. J'écoute attentivement tous les intervenants. Alors, moi, ça fait un petit peu plus d'un an que je suis dans les NFT. Et je trouve particulièrement cette technologie incroyable de par ses différents aspects, que ce soit la traçabilité d'un NFT qu'on va pouvoir acheter, savoir à qui on l'a acheté, par qui il est passé, etc. Mais aussi tout cet aspect art, en fait, parce que pour moi, ça va peut-être faire bondir Laura qui parlait tout à l'heure, mais je pense que ça va faire partie de l'art qu'on connaît actuellement, en fait.
Mmh. Allez-y, Rémi.
Aujourd'hui, il existe des artistes, pour en nommer un ou deux, par exemple Pascal Boyard, c'est un artiste qui a réalisé une fresque modifiée de la chapelle Sixtine dans un entrepôt dans la banlieue parisienne, et il en a fait 404 NFT, donc une photo de tous ces anges en fait qu'il a peint lui-même, hein. Mm-hmm. Et donc ces NFT sont stockés sur la blockchain, et ça c'est clairement des choses qui seront vouées certainement à être exposées par exemple dans des galeries physiques ou même des galeries virtuelles comme le propose le site OnCyber que Laura connaît peut-être.
Mais vous Rémi par exemple, qu'est-ce que vous collectionnez, qu'est-ce que vous avez en fait?
Alors moi j'ai beaucoup de choses, j'ai de l'art, de la photographie aussi. J'ai aussi des NFT qui vont servir dans la vidéo. On appelle ça les play to earn et play and earn. Donc jouer avec son NFT qui a une valeur absolument unique. Je vous dis une bêtise, voilà. Vous devez avec votre personnage qui a des indices de rareté, un casque, une armure par exemple en or ou une arme qui est très très forte par exemple.
Ah, donc là vous êtes dans le métaverse en fait. Et là c'est la frontière entre le métaverse et les NFT qu'on vient de franchir.
Pas forcément. C'est des jeux vidéo. Vous imaginez les plus grands jeux actuels qu'on trouve tous les jours, les Fortnite, etc., les Call of Duty. Je suis pas du tout un joueur de base, hein. C'est simplement la technologie qui me passionne. Et en fait, le fait de trouver ce personnage qui vraiment vous appartient et qui est unique, donne un aspect qui crée énormément de valeur.
Mais pour vous, par exemple, Rémi, c'est un investissement réellement? Par exemple, là, depuis un an, vous savez combien vous avez mis là-dedans ou pas?
Oui, je sais à peu près combien j'ai mis là-dedans. Honnêtement, au début, oui, je voyais ça comme de l'investissement parce que j'ai eu fait de la bourse, de la crypto-monnaie. Mais pour être honnête, là, mon portefeuille aujourd'hui est constitué à 95% de NFT.
D'accord.
Et je suis clairement convaincu qu'en fait, c'est une technologie qui, de par sa sécurité, ça peut paraître bizarre de dire ça quand on parle de Bitcoin, etc. Parce que voilà, Bitcoin finance le terrorisme ou les armes, ce qu'on peut dire, enfin ce qu'on entend, qui est en partie peut-être.
On parle de blanchiment, ce qui est en partie vrai.
Oui. Ouais, voilà, enfin ça c'est pas tellement, je suis pas tellement calé là-dedans, mais c'est ce que je vais vous dire par là. C'est que cette traçabilité, en fait, permet une authenticité. Et c'est des choses qui vont pouvoir être appliquées à énormément de domaines, que ce soit la musique. Vous allez acheter un NFT musical d'un artiste. Alors, certes, vous allez pouvoir l'écouter sur des plateformes, des diffuseurs autres, mais en possédant ce NFT, vous allez pouvoir avoir un accès à un concert, faire partie, avoir un album. Même, par exemple, un NFT, moi, je vois carrément une société du futur où, par exemple, là, on est en plein milieu des élections, l'élection présidentielle, je suis convaincu que tôt ou tard, dans 50, 100 ou 200 ans, vous verrez que chaque citoyen aura un jeton NFT qui servira d'un droit de vote, par exemple, pour élire un président. Et ça, c'est infalsifiable. On peut pas se planter parce que c'est inscrit sur la blockchain. Et c'est quelque chose qui... moi, je pense qu'on est clairement en avance. Je trompe peut-être. Mais j'en suis convaincu.
D'accord aussi.
Merci beaucoup Rémi. Vous voyez, des gens sont d'accord avec vous autour de la table. Je ne sais pas si vous êtes en train de me parler de futur, d'utopie ou de dystopie. En fait, je n'arrive pas à choisir
un peu des trois.
Entre ces trois-là. Ouais, je vois Julien Baldacchino qui fait comme ça avec la tête. Vous optez pour réponse A, l'utopie, réponse B, la dystopie, réponse C, le futur.
Il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de tout ça parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Et effectivement, là où le NFT est vraiment révolutionnaire techniquement, c'est qu'il permet de créer des choses uniques sur Internet, alors qu'avant on pouvait pas, on pouvait multiplier une image par autant qu'on veut. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et ouais. C'est vrai que dans une logique de futur et de métavers où on veut que le métavers ou le métaverse ressemble à la vraie vie de manière virtuelle, eh bien, si dans la vraie vie, on peut acheter une robe en exemplaire unique à un couturier, il faut que dans le métaverse, on puisse aussi acheter une robe en exemplaire unique.
Gucci vend des chaussures, par exemple, uniques, qui sont effectivement des NFT, qui n'existent pas, mais qui n'existent. Et moi, je trouve ça assez terrible. Il y a Benjamin qui nous dit, que vaudront ces NFT dans des dizaines d'années quand des sportifs, par exemple, seront beaucoup moins d'actualité. Dominique Sagot-Duvauroux. Et c'est là que je reviens d'ailleurs à la question de Rémi ou à la remarque de Rémi qui parle de portefeuille, en fait. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faudra évidemment revendre son sportif avant qu'il ait perdu de sa valeur. Ça, je le comprends fort bien. Mais est-ce que ça veut dire, à terme, puisqu'on parle de futur, d'utopie ou de dystopie, que la bourse deviendrait presque ringarde à côté des transactions comme celle des NFT, par exemple?
Ça, je saurais pas vous dire. Ce qui est vrai, c'est que la valeur, elle est liée à deux éléments, la notoriété et la rareté. Voilà. Si la notoriété baisse, la rareté ne suffira pas pour maintenir la valeur. Donc, l'exemple du sportif que vous citiez est caractéristique de ça. C'est-à-dire qu'un joueur qui est très connu aujourd'hui le sera pas forcément dans 20 ans, et du coup le NFT lié à un moment de sa partie de football ou de basket n'aura pas beaucoup de valeur. Donc la question, c'est comment sur ces NFT on va entretenir la notoriété. Et ça renvoie aux questions qu'on posait au début, c'est-à-dire à partir de quel référentiel on va, au bout du compte, hiérarchiser les NFT les uns par rapport aux autres. Sur le marché de l'art aujourd'hui, le référentiel, c'est la reconnaissance par le milieu de l'art, la reconnaissance par les historiens d'art. Donc on a un référentiel qui vont nous permettre d'expliquer pourquoi tel artiste vaut plus cher qu'un autre. Aujourd'hui, dans ce domaine, dans toutes ces collections qui se créent autour d'un NFT, il n'y a pas ces référentiels-là, donc c'est très volatile. Alors ça va vraisemblablement se faire, il va y avoir une hiérarchie qui va s'opérer entre les artistes qui créent sur Internet et qui vendent leurs œuvres sur la base des NFT, mais pour le moment, cette hiérarchie, elle n'est pas du tout objectivée.
Olivier Klepatsi, ça dépend aussi, j'imagine, du nombre de NFT qu'on vend. Je pense par exemple à ce fameux tableau de Turner. Combien il y a de NFT par tableau? Ce que je veux dire, c'est que si on en vend 1000, c'est pas pareil que si on en vend 3, en fait.
Tout à fait. Ah bah oui, c'est de là que, comme on dit depuis le début, c'est la rareté qui compte. Hein. Si vous vendez un NFT d'une œuvre et 30 000 d'une œuvre, forcément, avec le temps, elle n'aura pas la même valeur.
Quoi. Mais en ce moment, il se passe quoi, en fait, là-dessus? Est-ce que c'est 10, 100? Ou est-ce que un gars qui en a un de NFT de Turner va aller chercher les 9 autres en se disant, si j'arrive à ramasser les 10, comme ça aura encore plus de valeur et tout le tableau en NFT est à moi?
Mais je suis pas sûr, parce que c'est vraiment un exemple très particulier, Turner, hein, parce que c'est vraiment le musée, une association avec le musée, donc comme on disait, c'est plus du mécénat. Où ça marche vraiment, c'est effectivement quand on achète un bien unique, ou un NFT unique d'un artiste
donc
coté.
Donc une vraie œuvre, en fait.
Ouais, une vraie œuvre, oui, une vraie œuvre créée. Papaya, voilà. Et aussi, oui, parce que je voulais revenir, parce qu'on a parlé de tout ce qui était chauve-souris et tout.
Ouais.
Donc ça, c'est quand même important.
Chauve-souris, pingouin, etc. Le truc très, très improbable pour dire les choses clairement.
Voilà.
Non, parce qu'il y a des traders qui se sont fait un argent considérable
voilà.
En vendant des chauves-souris, des pingouins, etc.
Tout à fait.
Exactement.
Voilà. Donc c'est vrai, c'est devenu une grosse manne pour pas mal d'abus. D'ailleurs, ça, c'est important de le souligner, c'est qu'aujourd'hui, ça commence à être surveillé. Il y a deux jeunes là qui ont mis en ligne une collection et qui en fait sont partis avec la caisse, sauf qu'ils se sont fait choper par les Américains, par la justice américaine, et donc maintenant ils risquent 20 ans de prison. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a, moi je dirais aux gens qu'il faut être effectivement très regardant, vraiment se renseigner. De toute façon, c'est la règle d'or, hein. C'est pas se lancer comme ça, de faire n'importe quoi, parce que c'est ça aussi, c'est important de dire aux gens de bien s'éduquer vis-à-vis de ça. Mais de toutes ces collections, ce que vous dites, singes, machin, etc. Ouais. Là, moi je pense que dans le futur se dégageront de nouvelles marques, parce que justement certaines de ces collections, je pense qu'on les compte sur les doigts de la main, créent de la valeur. Et qui, à terme, pourra, par exemple, je dis n'importe quoi, il y a une collection qui s'appelle World of Women, voilà, avec des portraits de femmes, et voilà, ils sont en train vraiment de construire tout un univers autour de ça. Ils vont sortir des poupées, il y aura, je pense, à terme, des cartoons. Donc, en fait, c'est ça, c'est presque la nouvelle Barbie de demain, hein, le nouveau Mattel. Hein.
Voici une vraie bonne question, il y en a beaucoup dans ce sens-là au standard, c'est la vôtre, Arnaud. Bonsoir, Arnaud.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Merci pour vos émissions, bonsoir. Moi, je suis un peu sidéré que ne soit pas du tout abordée la question de l'impact désastreux environnemental créé par les NFT. Je trouve qu'aujourd'hui, il devrait y avoir, je sais pas, l'équivalent d'un comité d'éthique environnementale sur, j'ai rien contre le progrès, hein, mais les NFT, c'est des propriétés d'œuvres d'art qui sont authentifiées par des problèmes mathématiques qui sont si complexes, qui nécessitent des calculs qui ont l'équivalent de dépenses énergétiques de 10 centrales à charbon. C'est pas moi qui le dis, hein. Vous pouvez le lire dans plein d'articles. Il y a une entreprise qui est assez reconnue pour être plutôt neutre, qui s'appelle Digiconomist, qui estime que la plateforme principale qui vend les NFT, ou en tout cas sur lesquels s'échangent les NFT, qui s'appelle Ethereum, utilise autant d'électricité que l'ensemble des Pays-Bas et qui a une empreinte carbone qui est comparable à celle de Singapour. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin, en 2021, moi j'ai 53 ans, je trouve que c'est absolument aberrant qu'on ne parle pas de ça. Encore une fois, j'ai rien contre le progrès, mais est-ce qu'il n'y aurait pas nécessité absolue dans le marché de l'art, notamment, de se poser ces questions-là, comme on a pu le faire pour les premiers bébés éprouvettes, comme on a pu le faire. Je veux dire, ça devient une nécessité absolue. Et moi, je suis sidéré par ce que disent vos invités. Je veux dire, on peut pas imaginer que demain c'est la poupée. Quand le monde la poupée Barbie demain, qu'est-ce qu'on fera quand le monde sera plus là avec nos NFT? On sera content et voilà.
On aura une NFT de l'ancien monde et elle vaudra super cher parce que il y a plus rien qui ressemblera au monde d'aujourd'hui. Il a raison, Arnaud. On se pose les mêmes questions au sujet du Bitcoin, notamment. Il y a des pays entiers qui ont ces fermes, on appelle ça des fermes, qui sont absolument monumentales, qui dépensent une énergie de dingue. Et oui, on a l'impression c'est la chose qu'on met sous le tapis, en fait, là-dessus.
Non, justement, parce que je pense que c'est très bien de l'avoir abordé. D'ailleurs, je remercie cet auditeur de l'avoir abordé. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on abordera dans le documentaire, parce que ça, c'est important de le dire aussi. On va vraiment parler de tous ces points. Le but, c'est pas de faire un film où genre tout est beau, tout est rose. Non, c'est de montrer le bon côté et le mauvais côté, parce que, en fait, comme dans toute transformation technologique, tout n'est pas parfait, loin de là. Et effectivement, alors ça c'est important parce que faut vraiment que je réponde à cette question. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a l'Ethereum ou le Bitcoin, etc., qui fonctionne avec par mining. En gros, on est obligé de faire tourner des machines pour les créer. Mais tout ça, et ça c'est important de le souligner, parce que ça pareil, on n'en parle pas trop, parce que il nous faut du temps pour l'expliquer.
Il y a des pays entiers en Asie centrale qui vivent de ça.
Tout cela, à terme, va disparaître. Ouais. Puisque tous ces consensus, tous ces protocoles, toutes ces blockchains ont compris qu'il y avait un souci et donc tendent donc du coup à arrêter le minage dans un horizon quand même assez proche et de fonctionner différemment pour éviter justement de faire tourner ces fermes à minage qui effectivement sont mauvaises pour la planète.
Julien Baldacchino, il y a des gens qui disent, je me souviens d'avoir reçu un tweet dans ce sens-là lors d'une émission précédente, qui disent que toutes ces fermes-là, toute cette énergie incroyable que ça dépense, ce sont les abattoirs d'aujourd'hui. C'est-à-dire, on sait qu'ils existent, on les met loin des centres, on veut pas savoir, mais en réalité, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra régler.
Il y a un petit peu de ça. C'est une question très globale de l'empreinte écologique d'Internet, puisque de toute façon, pour faire tourner Internet, il y a des data centers, il y a une énergie énorme qui est mobilisée. La question, c'est de savoir en fait l'utilité ou la futilité de ce pourquoi on utilise cette énergie et effectivement comment on répartit l'énergie qu'on utilise.
Il nous reste une poignée de secondes, Olivier Kiepetsky, avant votre documentaire qui est en cours pour l'instant. Est-ce que vous en avez acheté du coup des NFT pour le bien du docu ou pas?
Oui, j'en ai acheté des NFT. Oui. Pour connaître un sujet, il faut s'imprégner et donc faut voilà.
Et est-ce qu'on peut financer aussi, par exemple, un docu comme le vôtre par l'intermédiaire de NFT? Est-ce que du coup, c'est un peu le diable qui se mord la queue? C'est une sorte de mise en abîme, mais pourquoi
pas? J'y pense et oui, je pense qu'à terme, là, ça pourrait être un circuit de financement pour les films ou les documentaires. Ça pourrait être une source de financement.
J'espère pour vous que ça marchera et pourquoi pas.
Je peux juste rajouter un petit truc, c'est bientôt fini?
Oui, c'est maintenant fini.
Et ben voilà, c'était juste pour dire que nous sommes donc à la recherche de diffuseurs.
C'est pour ça que je vous posais la question.
Et de sponsors. Donc s'ils veulent rejoindre l'aventure, on est toujours en cours de tournage. Et je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui.
Confiera vos coordonnées. Je vous remercie vraiment tous les trois de votre présence ce soir. Merci à tous pour vos très nombreux appels. On espère que vous avez compris un peu mieux de quoi on parle. On y reviendra forcément.